à voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Jean-Marc Rochette. Ce soir, un burlesque contrarié.
Bonsoir Jean-Marc Rochette.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté votre enfance et votre jeunesse, en particulier votre pratique assidue de l'escalade dans cet oisan où se situe la maison que vous habitez, dans laquelle vous nous recevez pour ces à voix nues. Aujourd'hui, ce sont vos débuts dans la bande dessinée que nous allons évoquer. Alors, avant même d'être dessinateur professionnel, évidemment, comme tous les dessinateurs, en même temps que vous grimpiez, vous étiez dessinateur. Vous nous avez raconté comment, dans cet accident où vous avez glissé le long d'une paroi glacée, vous avez dit « je ne serai jamais un grand dessinateur de bande dessinée ». Ça vous est venu comment, le goût du dessin ?
Le dessin, j'étais fils unique, donc je dessinais. Enfin, je dessinais pour passer l'ennui, je pense. J'avais un dessin, disons... pas académique déjà, je crois, enfant, simplement ça projetait mes histoires, quoi.
C'était quel genre d'histoire que vous dessinez ?
C'était des histoires d'enfants, j'imagine, de parachutistes, de loups, enfin bon, bref. Et puis, après, je me suis intéressé à la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on était dans les années 60, et là a commencé la Pilote, la BD. Alors, Tintin, bien sûr. Tintin, c'est l'histoire parce que j'avais pas de très bonnes dents. Et j'avais très très peur d'aller chez le dentiste, et ma mère m'offrait un Tintin à chaque fois que je vais chez le dentiste. C'est jusqu'au jour où j'avais épuisé, comme je vous dis, j'avais de mauvaises dents, donc j'ai épuisé tous les Tintins. Et là, il y a eu une révélation, c'est que, je me souviens, c'est à Villefranche à l'époque, et elle est rentrée chez un buraliste, il n'y a plus de Tintin, donc elle a pris ce qu'elle a trouvé, quoi, et elle avait pris Astérix. Et ça a littéralement été une révélation pour moi. Astérix, la vie explosait dans les pages, quoi. C'est une espèce de burlesque. Autant Tintin, c'est quand même une image classe. C'est vivant, mais c'est en retenue. Tandis que Uderzo, lui, c'était la vie. Et puis j'ai tout lu, quoi. Et donc, j'ai comme ma génération, on n'avait pas beaucoup de cinéma. La télé, c'était... Il y avait du noir et blanc, il n'y avait pas grand-chose pour les enfants. Et donc, c'était la BD, quoi. Et la BD m'a marqué. Et donc, voilà, donc j'ai essayé de faire de la BD, j'y arrivais pas, parce que c'est un art très difficile. Et puis, le temps a passé, et à un moment, un peu avant 68, 65, 66, est arrivé tout le mouvement underground américain et actuel.
Ça, vous le lisiez parce que c'était très difficile à l'époque. Il y avait que Actuel, effectivement, qui publiait du Robert Crumb et autres. C'est un journal que vous trouviez à Grenoble, par exemple.
Alors, je me souviens extrêmement bien d'où j'ai lu le premier Astérix, puisque c'était à Villefranche, devant un buraliste. Je me souviens très bien où j'ai lu le premier Actuel aussi. Je faisais du ski, je suis grenoblois, et j'avais déjà un stage de compétition aux Arcs ou je ne sais où. J'étais à la gare et j'ai acheté Actuel. Alors, je suis attiré parce que l'actuel, à l'époque, il était plein de couleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez.
C'était... Oui, il y avait des pages violettes, imprimées en bleu, on n'arrivait pas à lire quoi que ce soit.
Voilà, c'était assez obscur, mais j'achète ce journal. Et je feuillette, donc tout ce qui était à lire, je ne lis pas trop, je cherchais des BD. Et là, je tombe sur l'underground américain, on devait être en 70, je pense. Et donc, il y avait du Crumb, il y avait, je crois que c'est le début de Corben, il y avait du Shelton... Et puis, il y avait Francis Mas.
Voilà. Donc, lui était français.
Il était plus que français.
Il était de Grenoble.
Il était de Grenoble. Alors, pour coup, on parlait hier de mon côté révolté. Et là, j'avais ma dose. Parce que c'était nos limites. Hein. C'était transgressif, voilà, puissance 10. Quoi. Et donc, je lis cette BD de Francis Mas. C'était une de ses premières qu'il a fait. Je crois que c'était une histoire de Marilyn Monroe, de cochon qui passait. Bon, enfin, en tout cas, ça m'a vraiment plu. Et à ce moment-là, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai commencé à essayer de faire de la BD, quoi, avec difficulté. Donc, j'étais interne. Le soir, j'allais à un cours du dessin le soir et j'essayais de dessiner et tout ça. Et un jour, là, il y a un type qui allait être prof de dessin, je sais pas. Il me voit dessiner. Et il me dit, ah ben, tu fais de la BD, tout ça, c'est bien. Et moi, j'ai un copain qui fait de la BD aussi. Il me dit, et je lui dis, ah, oh, c'est super. Il me dit, et il s'appelle Francis Mas. Et là, je suis tombé des nues, parce que comme si c'était tous des Américains, Shelton, Corben, Crumb, toute la bande, c'était tous des Américains. Moi, j'étais sûr que ce Francis Mas, il était, je sais pas, du Kansas City ou de Wyoming. Et le mec, il me dit, non, il est du quartier Saint-Laurent. Moi, je suis de Saint-Bruno. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce Francis Mas. Voilà. Et le type m'a emmené chez lui, et Francis était en pleine bourre à l'époque. C'est la grande époque de Francis Mas. On est en 72, c'est le tout début, quoi. Il est extrêmement créatif. Qui était jeune, il a 8 ans de plus que moi. Et là, je me dis, ah, mais on peut vivre de ce métier. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. J'ai jamais pensé aller à Pilote ou à Spirou ou à... Voilà, moi, ce que je voulais, c'était Actuel. Voilà, je voulais dynamiter un peu le truc, quoi.
Et vous avez été publié dans Actuel, votre première planche publiée dans un journal professionnel, parce que vous avez dû faire du fanzinage, comme tout le monde à l'époque, j'imagine.
Voilà, alors le fanzinage, je faisais un fanzine qui s'appelait Zeno. Alors, j'ai rencontré dernièrement le type qui avait fait ça, il était très ému que j'en parle, donc j'en reparle encore, hein, de Zeno. Et je dessinais, si c'est pas bon, enfin, sur une tirage, à l'époque c'est à l'alcool, enfin, il y a pratiquement rien, mais... Donc les gens des fanzines français envoyaient leurs fanzines au navire amiral qui était Actuel. C'était lui qui donc tout le monde envoyait. Et un jour, Jean-François Bizot appelle le numéro qu'on avait dans Zeno, et c'était un bistrot en fait. Il s'appelait le Claridge en face de Champollion. Et le patron, il dit, est-ce qu'il y a Jean-Marc Rochette ici? Et c'était Bizot qui me cherchait, quoi. Et là, bon, là, je tombe ma chaise. Et donc, je vais faire une BD, quoi. Et donc, je me souviens, j'avais une deux chevaux. Je suis monté là-haut, j'étais avec Mas, je crois. Et j'ai amené une BD que j'ai publiée dans Les Froides. C'est ma première publiée avec Glénat, qui avait lancé aussi un fanzine à l'époque.
Qui était de Grenoble,
Glénat. De Grenoble, on l'appelait Glénat Gutin, son vrai nom, c'est ça, c'est Glénat Gutin. Qui a sorti, qui s'appelait Le Canard Sauvage, je crois. Qui était un peu un pendant de L'Écho des Savanes. Et j'ai publié aussi là-dedans, voilà.
Et vous avez suivi des études, je crois, d'histoire de l'art, un peu de cours d'art plastique aussi à Aix-en-Provence, Jean-Marc Rochette.
Oui, alors moi j'ai fait une année d'histoire de l'art à Grenoble et puis une année d'art plastique à Aix. Mais c'était l'année où je grimpais beaucoup, donc c'était plutôt une couverture. Je me souviens avoir écrit des trucs sur Poussin, et quand même, Poussin, pas le dessinateur suisse, mais le peintre. Et puis voilà, donc je me suis lancé là-dedans, et c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas d'argent du tout, hein, donc mais j'ai commencé comme ça, quoi.
Mais sauf qu'à l'époque, alors ça vous le racontez dans votre autobiographie, Aile froide, par un souvenir de lycée, mais toute votre génération était confrontée au même problème de professeurs qui méprisaient complètement le dessin figuratif, qui vous disaient il faut faire de l'art conceptuel, il faut faire de à la rigueur de l'abstrait, ouais. Surtout pas de figuratif.
Ah oui, non, bah, oui, je me souviens d'une anecdote où j'avais dessiné je ne sais quelle chose, et le professeur, sûrement a raison, m'avait dit en faisant ça, tu arriveras à rien. C'est vrai que si j'étais resté à ce niveau, je serais pas arrivé à grand chose. Donc il avait raison, mais il faut bien débuter quand même, quoi. Et la BD était très méprisée, oui, tout à fait. Mais moi, je trouvais que dans la BD, il y avait une espèce d'air de liberté que je retrouvais pas ailleurs, quoi. Et en plus, avant de m'intéresser vraiment à la BD, je m'intéressais à la peinture, et j'étais très intéressé par tout l'expressionnisme allemand, et qui étaient des révolutionnaires, quoi. Mais surtout, ils vivaient à une époque où il y avait ça, et c'était en opposition contre la guerre de 14-18, et puis après, ils étaient en opposition contre la montée du nazisme, et tout ça. Mais l'art, disons, dans les années 70, ça avait plus cette puissance-là, quoi. On était retombé vers un art, disons, plus consensuel ou plus intellectuel, et c'est pas mon truc, quoi. Et j'ai trouvé ces débouchés quand j'ai lu les BD de Crumb, surtout lui d'ailleurs, et de Corben, qui a d'abord, ils avaient une qualité graphique hors norme, et puis en plus, c'était de la dynamite en bouteille, quoi. Ça fêtait dans tous les sens, quoi.
Retour du chat qui voudrait rentrer par la fenêtre, peut-être qu'on va lui ouvrir pendant que je vous parle peut-être d'une autre influence que l'underground américain. J'ai lu cette planche que vous avez publiée, la première dans Actuel. Il y a du Topor aussi dedans.
Voilà, alors Topor, c'était un personnage très important, mais lui aussi faisait partie quand même de l'underground. C'était le mouvement Panique, c'était aussi la transgression et tout ça. Et c'était un autre dessinateur de Grenoble qui s'appelait Jean Pavlov, qui était un très bon dessinateur, qui après a un peu laissé tomber. Et lui, c'est un grand passionné de Topor. Il avait même été le voir, tout ça. Donc il m'avait fait connaître Topor. Et voilà, donc Topor, effectivement, Topor, grosse influence aussi, quoi.
Puis alors, voici qu'arrive votre première star, Edmond Le Cochon, un sale type, on peut dire. Comment est-ce qu'il est né dans Aile Froide? Vous le racontez comme presque une émanation de votre pinceau. Votre pinceau commence à vous engueuler. Voilà. C'est dans l'invective. Et puis, c'est le personnage d'Edmond qui s'adresse à vous directement. Alors ça, c'est une image un peu symbolique de ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que ce personnage est né, Jean-Marc Rochette?
Je crois que c'était quand je suis rentré des États-Unis, parce que j'étais aux États-Unis, je voulais grimper dans le Yosemite, donc j'ai traversé les États-Unis en stop aller-retour, et c'est là où j'ai replongé dans l'underground américain, mais que c'était un peu, moi je pensais que c'était, on était en 78, je pensais qu'on était en plein boom, mais c'était la fin de l'underground américain. Donc je suis arrivé là-bas un peu déçu, il y avait une librairie, et donc quand je suis rentré en France, pour faire simple, j'avais à l'époque une aide de l'État parce que j'avais perdu mon père en Algérie. Donc, on m'avait donné un peu une aide.
J'étais pupille de la nation.
Voilà. Donc, ça me permettait de faire mes dessins sans avoir trop de problèmes d'argent. Mais un jour, c'est à 21 ans, ça s'arrête. On n'est pas, l'État ne n'aide pas les orphelins jusqu'à 90 ans, quoi. Donc, il y a un moment, on dit, OK, ça va, on a payé, quoi. Et donc, je me suis retrouvé, j'avais rien. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à Grenoble, et donc, j'ai essayé de trouver un personnage qui était dans la Shkoumoun. Et donc j'ai pensé à un cochon qui voilà un personnage horrible et qui était prêt à tout pour s'en sortir. Et c'est comme ça qu'il est né quoi. Je crois qu'on était en 78. Voilà. Alors pour l'anecdote, je publiais déjà à l'Écho des Savanes. Il m'avait passé 2-3 BD comme ça et j'avais envoyé c'était Edmond le cochon, c'est 4 pages à un ami à moi qui s'appelait Ferchid Baroucha, qui est le grand Ferchid qui a amené Crumb en France et tout ça.
Grand éditeur de la bande dessinée américaine en France.
Oui. Voilà. Et donc, il avait reçu ça, et chaque fois, il essayait de replacer mon Edmond le cochon avec Mandrika et tout ça. Il dit, mais ça, c'est bien, vous devriez le passer.
Et chaque Mandrika, qui était le fondateur et directeur à l'époque encore de l'Écho des Savanes, première formule.
Absolument. Un grand auteur que j'adorais aussi. Et donc, chaque fois, il prenait pas le Edmond le cochon. Puis finalement, un jour, je sais pas, Nikita, ou je sais pas, bon, il devait manquer 4 pages, hein. Souvent, c'est comme ça, les grands dessins. Et donc, ils l'ont passé. Et moi, d'un seul coup, j'ai vu mon Edmond le cochon, dans l'écho, quoi. Et j'avais essayé de faire le personnage le pire, physiquement et moralement. Et, ça a plu un peu. Et surtout, c'est là où j'ai rencontré Martin Véron. Parce que de temps en temps, je montais à Paris et je fais beaucoup les scénarios de Martin. Et Martin Véron avec son Bernard Lamy, je trouvais que c'était très inventif, très poétique, iconoclaste aussi, comme il fallait. Et je lui ai proposé de savoir si vous voulez faire une série sur ce personnage, quoi.
Mais pourquoi justement ne pas le faire tout seul alors que c'était votre création au départ?
D'abord parce que j'avais aucune confiance en moi sur l'écriture, parce que je suis dyslexique et donc on m'a toujours dit que j'étais un semi-demeuré, donc j'ai fini par le croire. Et puis, donc, je savais pas écrire. Enfin, j'avais l'impression que je savais pas écrire. Et puis, surtout, je pense que j'étais pas très bon dans les gags à répétition. J'étais capable d'inventer un monde, comme ce cochon qui veut s'en sortir, mais j'étais pas capable de décliner gag après gag. Gagman, c'est quand même un truc assez difficile. Et Martin m'a dit, OK, on fait ça, quoi. Et Martin s'est déchaîné, littéralement. Il est dans un milieu plutôt bourgeois, Martin. Je pensais pas qu'il serait capable d'aller... Et donc, il s'est littéralement déchaîné au scénario, et moi, je me suis déchaîné au dessin. C'est l'époque où il y avait Philippe Villemain aussi. On était en 78, quoi. C'était le tout début, et c'est parti comme ça, Edmond le cochon, quoi. Et là, par contre, le succès est arrivé.
Oui, parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui percute une époque. On est dans l'époque punk, un peu. En même temps, il y a quelque chose de très terrifiant. Vous parlez d'humour, mais c'est aussi un univers concentrationnaire. Enfin, ouais. Tout ce petit monde est quand même promis à l'abattoir. Il y a un moment où vous dessinez carrément un camp de concentration.
Absolument.
Pour cochon. C'est quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans Transpersonnage aussi, cette dimension concentrationnaire. Mais voilà, c'est une bande dessinée qui rencontre l'époque.
Qui rencontre l'époque, il y avait, moi, j'étais très copain avec Marc Caro, qui était lui très punk. Enfin, il était marqué punk, il était habillé en punk, il était punk. Alors que moi, j'avais une espèce d'accoutrement un peu plutôt avec cheveux longs, etc. Et ce personnage, c'était un mi-chemin entre le punk et l'underground. Enfin bon, il a trouvé son public, et puis surtout, c'était drôle. Il y avait quand même une partie effectivement effrayante, mais ça faisait rigoler les adolescents de l'époque. On était vraiment dans de la BD générationnelle. C'est le début aussi de Margerin, qui est moins underground, mais là, si vous voulez, c'était le truc, on s'en canaillait en lisant Edmond le cochon, quoi.
Enfin, pas seulement les jeunes, parce qu'il y a même des éleveurs de cochons qui appelaient leur Vera Edmond.
Ah oui. Et même dans Paris Match, il y avait un cochon qui allait dans les îles Kerguelen. On a amené un cochon, il l'avait appelé Edmond. J'ai dit, oh là, c'est la gloire.
C'est vrai, alors comme de même le goupil est devenu renard, vous avez peut-être espéré que tous les cochons s'appellent Edmond.
Ouais, c'est ce que m'avait dit Martin dans un jour. Il m'a dit peut-être qu'un jour on les appellera les Edmonds. Et ben non, en fait, non.
Alors vous l'avez arrêté, ce Edmond le cochon, en 1983. Vous l'avez repris 10 ans plus tard. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que votre trait a complètement changé. Edmond le cochon, première manière, c'est presque du Richard Corben dans la cour de ferme. Ouais. Et ensuite, vous avez un dessin beaucoup plus jeté, beaucoup plus libre, un peu comme le trait de René Pétillon. On va en parler dans un instant. De Pétillon a pu, lui, être bouleversé par son passage au dessin de presse dans Le Canard enchaîné. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans pour changer à ce point votre trait?
J'ai dessiné mieux, je me suis assoupli parce que j'ai fait d'autres bandes dessinées. Et puis je me suis intéressé aussi à des bandes dessinées américaines comme les Peanuts ou comme toutes ces choses-là, quoi. Je me disais il faut avoir un dessin moins présent, en fait, que le dessin se cache un peu derrière le gag, derrière l'histoire. Donc je voulais pas que mes personnages soient de chair et de sang, quoi. Je voulais que on rentre dans des personnages qu'on y croit sans y croire, quoi. Un peu comme Tintin ou comme Lucky Luke. Je m'étais un petit peu assagi, en fait, dans mon dessin, quoi. Et puis c'est vrai que j'avais une grosse discussion avec René Pétillon, qui lui, c'est un gros admirateur de Maurice. Et j'ai commencé à regarder ces dessinateurs-là, comment ils arrivaient à gérer leur dessin en étant plus discret, hein, sur leur. Mais par contre, ça n'a pas du tout marché, parce que mon public, il voulait du Edmond première période, s'il restait du public, et celui-là, il n'a pas du tout. Et en plus, je faisais beaucoup de plans les mêmes. Je voulais garder des plans statiques.
Oui, vous préfiguriez ce qu'on appelait la nouvelle bande dessinée, c'est-à-dire avec ce qu'on appelait l'itération iconique.
Voilà, exactement.
La répétition, ouais, du même cadre, une sorte de long plan fixe au cinéma, ça serait un long plan fixe.
Exactement, et ça n'a pas du tout été compris. Et moi, ça me faisait rire de faire toujours le même plan sur 10 pages avec des histoires, avec des pintades et tout ça. Je trouvais que c'était beaucoup plus drôle si je changeais pas d'axe ou si je changeais pas de plan. On était devant, on regardait au cinéma, et voilà. Et ça, les gens ont pas du tout compris. Et voire même, des fois, je changeais même pas les cases. C'était juste les ce qui aurait été repris par Trondheim, il a fait beaucoup ça, enfin toute cette époque-là.
Lucien Vives fait ça aussi.
Voilà,
et moi, Caro et d'autres.
Et voilà, et donc moi j'ai fait ça, disons, on devait être tout début des années 90. Et par contre là, j'ai été un peu précurseur parce que ça, alors là, ça j'ai fait fuir tout le monde.
c'était trop tôt. Alors avec René Pétillon, vous avez fait plusieurs livres ensemble, trois livres. Ça s'appelait Louis Édico à la conquête du monde, un mythomane et une victime de troubles de la personnalité. C'est un travail sur la folie que vous aviez commencé tout seul avec Napoléon et Bonaparte. C'est étonnant, cette exploration assez drôlatique de la folie, Jean-Marc Rochette.
C'est-à-dire que je voulais faire un truc très repéré quand j'étais jeune. Tous les fous se prenaient pour Napoléon. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils se prennent, mais à l'époque, ils se prenaient pour Napoléon. Et donc, j'étais parti sur ce cliché complet. Et il y en a un qui se prenait pour Napoléon et l'autre qui se prenait pour Bonaparte. Donc ils étaient ensemble. Et c'était surtout une manière d'absorber même des petits problèmes philosophiques ou des petits problèmes de non-sens et tout ça. Et donc j'ai fait ça. C'était des histoires très courtes de 4 pages dans la suivre. Je me suis bien amusé, en fait. Et puis ça s'est fini comme toutes les bandes dessinées finissent. Et je voulais travailler avec Pétillon. Parce que j'adorais et j'admire son sens du gag. C'est un des plus grands gagman français. Et j'étais vraiment, j'étais admirateur complet de son baron noir avec Goethe.
La Goethe.
Ça, des gags qui claquaient. Et c'était un peu pour moi. J'avais un peu dans l'idée de le faire travailler avec moi, quoi. Et puis je voyais qu'il travaillait pour lui, il travaillait pour d'autres. Puis un jour, je lui dis, on va faire une histoire de fou, allez reprendre. Et c'est là qu'on a eu cette idée. Enfin, lui, il a eu cette idée de génie d'un type qui s'appelait Dico et qui changeait de personnalité à chaque fois qu'il lisait le dictionnaire. Donc il tombait sur, je sais pas moi, sur Einstein, Newton, etc. Et René est parti là-dedans. Et moi, ça m'a beaucoup appris parce que René était un sens du gag incroyable. C'est le gag, c'est de la précision, c'est très fin, en fait, hein. Un gag peut marcher dans un axe et marchera pas sous un autre axe, quoi. Et donc on a fait trois livres.
Et puis avec Martin Véron, il y aura aussi un livre assez mésestimé que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Cour Royale, les aventures d'un perruquier à la cour de Louis XIV. C'est d'autant plus étonnant ce livre que, sous votre dessin humoristique assez jeté, assez facile en apparence, en fait, il y a un énorme travail de documentation derrière. C'est presque un documentaire sur la cour de Louis XIV, sous les traits de l'humour.
Oui, alors cette histoire, elle a commencé parce que j'avais illustré des livres pour enfants, et notamment le Chaboté. Et j'avais fait des personnages à perruques énormes. Et j'avais dit à Martin, ça serait quand même marrant de faire un truc sous Louis XIV avec des perruques énormes. Déjà, j'ai trouvé drôle. Bon, c'est déjà assez drôle. Enfin, il se rendait pas compte à quel point c'est drôle de porter des perruques de cette taille-là et d'être en bas avec des talons hauts. Ils sont quand même assez amusants. Et donc on est parti là-dessus et Martin a joué le jeu. Il a fait parler ça en vieux français. Moi je pense que c'est un de mes meilleurs bouquins bizarrement. Et alors c'est celui qui a le moins bien marché. Alors là celui-là c'est carrément très mauvais. Et pourtant je le trouve très drôle. Et effectivement au niveau doc, j'ai même demandé à Juillard, André Juillard, qui est un dessinateur historique à l'époque.
Masque rouge, les 7 vies de l'épervier.
Voilà, et je lui ai dit, ça aurait pas des bouquins sur Louis XIV, des trucs, j'y connais rien, et donc il m'avait donné des tas de trucs.
C'est avant Internet, hein, il faut le préciser.
Avant Internet, voilà, donc il m'avait prêté des livres où j'avais tout le. Et il faut savoir que même les chandeliers, tout ça dans le Courroyer, tout est vrai, en fait, hein. Et on s'est beaucoup amusé à faire ce livre. Voilà.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce trait humoristique dont je parlais, c'est devenu presque comme une seconde nature. Quand on regarde les découpages de vos livres présents, qui sont très réalistes, comme Aile froide, là encore, Jean-Marc Rochette, le premier trait, vos traits naturels presque, c'est ce trait humoristique.
Ah, je crois que je suis un burlesque contrarié. Parce qu'au départ, c'était Edmond, mon truc, c'était le burlesque. Et pour ça, c'est pour ça que René voulait bosser avec moi, parce qu'il me disait, t'as le sens du burlesque. Moi, mon grand héros, c'était Uderzo. Je suis un fan de Uderzo. Je trouve que c'est un type qui est incroyablement fort au niveau de tout ce qu'il fait dans le burlesque. Le burlesque, c'est mon truc, quoi. Et puis le burlesque n'a pas marché. Enfin, je veux dire, parce qu'on fait un métier quand même d'art pop, art populaire, et donc si le lecteur est pas là, on n'est pas des poètes, hein, qui rêvent de la poésie éternelle et tout ça. On est surtout que à l'époque c'était des magazines. Ça a pas marché et donc j'ai fait autre chose. Et comme le transpersonnage lui a très bien marché, et par la suite encore mieux, donc ça m'a orienté sur ce genre-là. Mais c'est vrai que de temps en temps, comme ça, pour le plaisir, je continue à faire des dessins marrants, quoi.
Alors, tous ces scénaristes avec qui vous avez travaillé, qu'est-ce que vous attendez d'eux? C'est une technique du récit, du gag, comme vous disiez pour Pétillon. Est-ce que vous voulez quelque chose qui est déjà très découpé, ou vous faites comme un réalisateur de cinéma, vous avez un scénario, et puis vous en emparez, et la mise en scène, c'est vous, Jean-Marc Rochette?
C'est différent. Par exemple, René, lui, il était hyper directif. C'est-à-dire que c'était quand même un peu sur mon monde. C'est-à-dire que je suis un peu comme un metteur en scène qui aurait dit, on va faire ça. C'est ça, l'histoire. Et après, on discute souvent. Il y avait les gros axes venaient de moi, par exemple, assez curieusement. Les MacGuffin, comme on dit maintenant, venaient plutôt de moi. Et lui, par contre, il était capable de... Moi, je croyais que j'étais pas capable de développer. J'étais capable de trouver un sens à une narration, et pas de le développer. Par contre, lui, il me donnait carrément des strips carrément faits, quoi. Pratiquement, je refaisais du Pétillon, quoi. C'était un point chez Martin, c'est beaucoup plus libre. Donc, c'est pareil, on part un peu sur mes envies. Et puis après, lui, il est beaucoup... Il n'y a pas de dessin, par exemple. Déjà, chez Martin, il n'y avait pas de dessin. Voilà, ça c'est pour les deux. Les... Ce que je leur demandais, c'était drôle. En fait, c'était capable de développer de la drôlerie. Je me sentais pas comme un gagman, voilà. Et donc c'était des gagman ces deux-là. Pour les autres, avec qui j'ai travaillé, alors dans le genre plus réaliste, que ça soit Olivier Bocquet, là je leur ai demandé de faire un travail de scénariste de cinéma, c'est-à-dire d'être capable de mettre des sous-récits, de travailler des personnages, de trouver des d'inventer, d'enrichir mes histoires, quoi. Alors ça dépend de quel niveau. Par exemple, dans le cas de Loeb, c'est lui qui a tout inventé, donc là j'étais qu'un dessinateur.
Jacques Loeb, créateur du transpersonnage, on va en parler demain.
Voilà, Legrand, pareil, c'était un peu comme ça, parce que lui c'est un écrivain de science-fiction, donc il avait un sentiment, voilà. Et où je me suis vraiment régalé, c'était avec Olivier Bocquet, parce que là c'était vraiment un travail croisé, puisque Terminus, c'était parti sur une de mes histoires, qui, j'avais à part pratiquement toute l'histoire en tête, hein, le début, la fin, etc., les enjeux. Par contre, il y avait des faiblesses scénaristiques et Olivier Bocquet a trouvé des choses que je demandais. En fait, je demandais à un scénariste qu'il apporte quelque chose en plus sur cette histoire qui me paraissait pas suffisante, quoi. Et là, on est vraiment dans le travail du metteur en scène et du scénariste, comme on peut le trouver chez tous les, même Bongeau, par exemple, quand il a son histoire et après il va chercher un scénariste annexe pour pouvoir qu'il y ait un jeu de ping-pong, une maïeutique, etc., quoi.
Alors, c'est peut-être, vous l'avez dit, pour des raisons d'insuccès que certaines séries se sont arrêtées, mais à regarder toute votre carrière et tous les différents personnages et univers que vous avez créés, est-ce que c'était pas malgré tout une façon pour vous de lutter contre la sclérose du dessinateur, qui est quand même le mal dont souffrent beaucoup de vos confrères? C'était le cas pour un Maurice, par exemple, puisque vous mentionniez son nom tout à l'heure, ou même pour Uderzo. C'est qu'à dessiner toujours le même personnage, le même univers pendant 40, 50 ans, il y a quelque chose qui se fige à un moment. Jean-Marc Rochette.
Oui, et puis surtout, je pense que j'aurais été complètement dépressif à faire ça. C'est-à-dire que je me suis aussi sabordé plus d'une fois. Je me suis sabordé inconsciemment quelques fois et d'autres fois consciemment. C'est-à-dire quand j'ai fait, par exemple, il y a des moments où je me suis même sorti moi-même de la BD. C'était quand j'ai fait Requiem Blanc, c'était un livre qui ne pouvait pas marcher, quoi. C'était là, si j'avais eu un éditeur digne de ce nom, à l'époque, ils acceptaient tout et c'était très bien comme ça. Et donc là, en fait, j'ai tout cassé, quoi, pour repartir à zéro. Donc ça, c'est là aussi où ma carrière est un peu atypique par rapport à beaucoup de confrères qui, eux, ont des personnages qui fonctionnent et ils essayent de les faire fonctionner le plus longtemps possible, quoi. Parce que c'est évidemment plus confortable. Puisque j'ai quand même eu des périodes de désert avec ce genre de carrière.
C'est Michel Serres, le philosophe, qui disait que chez les chercheurs, il y a deux genres d'animaux. Il y a le sanglier, celui qui creuse son même sillon toute sa vie. Et puis il y a le renard qui furette un peu partout. Vous êtes un renard, Jean-Marc Rochette.
Ah oui, 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 j'ai changé souvent, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, c'était même un défaut. On disait, Rochette, il n'y a pas de style. Rochette, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Je connais pas, quoi. C'est un coup c'est Edmond, un coup c'est Transperce-Neige, un coup c'est Requiem Blanc, un coup c'est Le Tribu, un coup c'est Louis Edico. Mais où est la logique dans tout ça, quoi? Je pense qu'il y en a une, mais elle est un peu tordue.
On dira pas de vous, Rochette, c'est le papa de tel personnage. C'est celui qui, en tout cas, était co-conducteur du Transperce-Neige, et ça, on en parlera demain. Jean-Marc Rochette, merci, bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Jean-Marc Rochette. À voix nue, réalisation Benjamin Hu. Prise de son, Virginie Lorda. Attachée de production, Daphné Apkral. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.